problèmes, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Quoi ça sert de parler maintenant? Non, non, mais c'est ma femme qui a insisté pour que je vienne à la séance. Moi, je voulais pas. J'ai tout perdu.
C'est-à-dire?
Non, mais attendez, vous vivez dans une grotte ou quoi?
Dites-moi.
Eh bien, j'ai été forcé de démissionner de ma propre entreprise. Voilà. Je me sens comme un vieux qui est resté trop longtemps sur le ring. J'ai baissé ma garde. Il fallait que je reprenne la main plus tôt, mais bon. Non, non, mais je mérite tout ce qui m'arrive. Les journalistes ont raison. Je suis un assassin.
C'est le terme qu'ils ont employé, assassin?
Oui. Nicole, elle est gentille, elle essaie de me protéger, elle ne me laisse pas regarder les infos, ni lire les journaux, mais bon, tout est en ligne. Alors, c'est... Là, je lis des horreurs, c'est l'avalanche. Seulement, entre les lignes, je dis aussi leur soulagement. Voilà. Ah, bah, c'est sûr, hein, depuis que j'ai disparu du paysage, ça va mieux. Donc, j'ai fait un communiqué parfait, j'ai reconnu mes négligences, et voilà. Affaire classée. J'assume mes responsabilités. Nicole, elle est gentille, parce qu'elle essaie de me changer les idées. Elle voudrait que je regarde une série avec elle. Je suis la reine d'Angleterre. Vous connaissez, là?
Non.
Ça fait une semaine que je suis cloîtré chez moi entre ma femme et Elisabeth II. Ah, apparemment, dans la saison 4, elle est Didi. Ben, mot change, non?
Vous continuez à prendre des anxiolytiques?
Oui, puis la nuit, c'est pas tout à fait la même chose, je prends des somnifères.
Combien vous en prenez?
J'en prends dès que je me remets à réfléchir, à ruminer des choses auxquelles je ne devrais pas penser.
Mais il n'est pas recommandé de prendre des somnifères en plus des anxiolytiques.
Pas de quoi vous avez peur? Que je me foute en l'air? Comme Myriam?
Vous pensez beaucoup à elle?
Tout le temps. Je passe mes journées et mes nuits à ressasser. Je fais que ça ressasser. Je leur fais l'histoire en boucle. Le confinement et le travail. Myriam qui jette par la fenêtre. Ben, si elle s'était pas suicidée, rien de tout ça ne me serait arrivé. Je suis fatigué. Je voudrais dormir, me réveiller dans le monde d'avant. Que ce soit qu'un mauvais cauchemar. Que la presse ne m'ait pas traîné dans la boue. Que Myriam soit toujours en vie.
Avez-vous déjà pensé que ne pas vous réveiller serait une solution?
Non. Ça, je laisserai jamais Nicole face à ce cauchemar.
Comment vit-elle la situation? Vous en avez parlé?
Ben, n'arrête pas de se lamenter. Et vous voulez que je vous dise ce qui me trouble surtout?
Dites-moi.
C'est pas ses larmes, j'y suis habitué. Son nom de jeune fille, c'est Mandelbaum. Elle est juive ashkénaze. Je vous l'ai pas dit, ça. Hein? Nicole est le genre de personne heureuse d'être triste et triste d'être heureuse. Vous voyez?
Alors, qu'est-ce qui vous trouble, surtout?
Son regard. C'est un regard de pitié. Ça, c'est nouveau. C'est atroce. Je lui ai demandé de plus jamais me regarder comme ça, seulement c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle me regarde comme ça, avec un mélange de compassion, de pitié.
Vous êtes sûr que c'était de la pitié?
On m'a viré, alors charpentier arriver viré un jour ou l'autre.
Ça vous fait quoi que le monde entier soit rivé sur vous?
L'attention, ça me dérange pas. Ce que je déteste vraiment, c'est la pitié. Vous savez, je me suis battu toute ma vie tout seul, sans jamais me plaindre, sans jamais rien demander à personne. Mais j'ai dit à Nicole que je ne voulais plus revoir personne. J'ai même demandé de faire croire que j'avais attrapé le Covid. Alors avec ça, j'étais tranquille. Non, mais fini les petits cadeaux de retraite. Je peux pas. Hein. Quelle horreur, ce mot. J'ai l'impression d'être un vieux. Alors je sais que je suis vieux. Mais d'être définitivement passé de l'autre côté.
Quel côté?
Ben, du côté de ceux qui doivent rester dignes alors que la fête est finie. Parce que moi, je ne supporte pas les gens qui se racontent des histoires et puis qui finissent par mener une fausse vie.
Ce serait quoi la vraie vie, selon vous?
Ben, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des mensonges.
Vous savez, on ne choisit pas toujours la façon dont les choses se passent. On est bien souvent obligé de se raconter des histoires pour supporter la réalité.
Peut-être.
Vous aussi, vous vous mentez, alors. Tout à l'heure, par exemple, vous avez dit que vous passiez vos journées à ressasser. Ben, c'est peut-être votre manière, à vous, de contourner la vérité, le ressassement. On peut aussi entendre l'heureux sassement.
Je sais pas ce que je fais là, moi. Toutes ces circonvolutions, là, c'est pas pour moi. Vous savez, moi, je suis cartésien, je pense, donc je suis, point barre.
Vous ne voulez pas du soutien de votre famille? Vous pensez que ça ne sert à rien de venir parler ici? Eh ben, vous avez raison, vous êtes foutu.
Si même vous vous le dites, j'ai plus de doute.
C'est pas moi qui le dis.
Je suis sûr de ce que vous avez pensé de moi à ma première séance.
Ah, ouais. Dites-moi.
Vous avez pensé que j'étais un égoïste qui cherchait qu'à faire du fric sur le dos des autres. Vous avez pensé que j'étais avide, insensible, et que j'avais bien mérité cette avalanche de haine qui me tombait dessus.
C'est tout?
C'est pas mal, non? Déjà.
Lorsque vous formulez tous ces reproches à votre encontre, qui parle?
Comment ça?
Ce n'est ni vous, ni moi qui parlons de vous comme ça. Alors qui parle? Alain.
Je peux prendre un verre d'eau?
Bien sûr.
C'était la pire chose qui pouvait m'arriver.
Vous l'avez perdue ou on vous l'a prise?
Non, on l'a prise. Le père Dubreuil n'a rien dit.
Mais je croyais qu'il vous soutenait.
Ben moi aussi, je le croyais. Mais il a eu peur. Et je le comprends.
Il n'a jamais essayé de vous défendre?
Non.
Donc l'homme pour qui vous avez travaillé pendant 50 ans, vous a laissé partir sans vous défendre.
Vous savez, pas seul dans cette histoire. C'est un vieux maintenant, il a plus de 90 ans. Ses filles s'en sont mêlées, ses petits-enfants, une horde d'avocats. Vous savez comment sont les avocats, ça part d'une affaire.
Oui, oui, je sais.
Dubreuil n'a pas eu d'autre choix que de s'aligner sur leur décision. Depuis le scandale, nos actions se sont effondrées, et dès que j'ai annoncé mon départ, elles se sont mises en montée. Et donc, pendant la réunion de crise, le vieux, pas Dubreuil, il m'a à peine regardé. Donc je suis allé le voir après pour le remercier de m'avoir fait confiance pendant toutes ces années. Il m'a dit, bonne chance Alain. Voilà. Après toutes ces années. Jamais j'aurais pensé partir comme ça du jour au lendemain. Quand leur fils est mort, vous savez, l'accident de voiture. Dubreuil était dévasté, il voulait tout arrêter. Et moi, je lui ai dit de tenir bon. Je lui ai promis qu'on continuerait à bâtir cet empire pour Christian. Et on a réussi.
Vous avez réussi. Vous avez fait de Dubreuil un homme riche. Et il vous laisse partir en vous disant juste bonne chance.
Il a dit autre chose, mais pas devant moi. C'est mon assistant qui me l'a reporté.
Qu'a-t-il dit?
Il a parlé d'Anouk et du fait que j'étais parti du jour au lendemain, sans prévenir personne, comme vous me l'avez fait remarquer la semaine dernière. Alors qu'on était en pleine crise, j'ai mis de côté mes responsabilités pour aller chercher ma fille. Voilà, donc Dubreuil a dit que j'avais creusé ma propre tombe. Et que j'étais...
Que vous étiez?
J'étais fou.
Quand vous êtes venu ici la première fois, vous avez fait cette attaque de panique. C'était une manière de me signifier que vous souffriez, que vous étiez au bord de l'explosion. Votre corps essayait de dire quelque chose. Peut-être qu'en partant chercher Anouk, vous cherchiez à amener cette crise à son paroxysme. Et faire enfin sortir ce que vous gardez en vous depuis tant d'années.
Mais Dubreuil a raison. J'ai fait n'importe quoi. J'ai rien suggéré. Je suis totalement laissé dépasser par la situation. Les journalistes aussi ont raison. Voilà, je suis le seul responsable du suicide de Myriam.
C'est vraiment ce que vous pensez?
Et ma fille le pense aussi. Je suis tombé sur un mail qu'elle avait écrit à sa mère. Elle a écrit que j'étais un criminel en col blanc.
Donc, si je résume, vous vous croyez coupable, les journaux vous croient coupable, Dubreuil aussi, votre fille aussi.
Non, non, je ne suis pas parano, hein, si c'est ce que vous insinuez.
Les parano ont aussi de vrais ennemis.
Mais je ne suis pas parano. C'est juste que je me sens oppressé, surtout la nuit. Voilà, je me réveille en sueur, et puis là, j'arrête pas de cogiter. Je me demande ce que j'ai raté, ce que j'aurais pu sauver. Si vous aviez vu le visage de Dubreuil, c'était tellement... déçu.
Déçu lui aussi.
Non mais c'est de ma faute.
Enfin, quand son fils Christian est mort, il aurait tout laissé tomber sans votre intervention. N'est-ce pas?
J'avais promis à Dubreuil de surveiller son fils, de faire attention à lui. Et ce soir-là, je n'étais pas dans la voiture.
Comme vous n'étiez pas non plus en Bretagne sur cette falaise pour plonger dans la mer en pleine nuit.
Oui.